vous voulez, nous allons essayer quand même d'entrer dans le chapitre 8 sur le point de vue de l'antériorité et de la postériorité, c'est-à-dire des rapports entre le point de vue de l'acte et de la puissance. C'est une question sur laquelle Aristote avait déjà venu à propos de l'Ousia, voir comment on peut ordonner le point de vue de la substance par rapport aux accidents. Et nous retrouvons la même question du côté de l'acte et de la puissance. Alors, je vous renvoie au livre Gensa, chapitre 11, 1018-10, qui est une question extrêmement importante chez Aristote, cette question de l'ordre. On comprend très bien. C'est une question sur laquelle il revient tout le temps. C'est une question très importante parce qu'il montre qu'il y a des ordres différents et qu'il ne faut pas tout ramener au même ordre. C'est une question qui sera à voir en parallèle avec la pensée directive. Parce que quand je crois que c'est là que nous voyons la différence entre la pensée directive et la pensée d'Aristote. C'est qu'Aristote souligne qu'il y a une diversité d'ordres. Il n'y a pas toujours le même ordre. Nous ne retrouvons pas toujours l'ordre uniquement dans un point de vue de la connaissance qui est le même que le point de vue de la réalité. Que nous ne trouvons pas le même ordre du côté génétique et du côté nature, perfection. Donc, autrement dit, Aristote souligne, et dans sa perspective à lui, c'est très important, puisque c'est là où nous voyons que le point de vue de la connaissance et le point de vue de la réalité ne sont pas adéquats. Il y a deux choses différentes. Et donc, il faut distinguer par le fait même l'ordre qui se prend du côté de la connaissance, l'ordre qui se prend du côté génétique, réel, l'ordre qui se prend du côté du temps et l'ordre qui se prend du côté du science. Alors vous voyez, il y a une diversité de considérations qui ne sont pas toujours les mêmes et qui sont du reste difficiles souvent à bien préciser. Et c'est pour ça qu'après avoir vu la distinction de l'acte et de la puissance, on comprend très bien qu'Aristote revienne sur le point de vue de l'antériorité de l'acte sur la puissance pour voir si cette antériorité de l'acte à la puissance est la même que l'antériorité de la substance à l'égard de l'accident. Parce que, au fond, il y a ça sous-jacent. Et il va nous faire comprendre qu'il y a une diversité. Lorsqu'il s'agissait de la substance à l'égard, dans les livres des hommes, quand il s'agissait de la substance à l'égard des accidents, Aristote montrait que la substance avait une antériorité absolue dans tous les domaines, sur les accidents. Tandis qu'au contraire ici, il va montrer qu'il y a un domaine dans lequel la puissance a une priorité. C'est au fond très important, puisque ça va sauvegarder tout un plan génétique distinct du plan proprement de la connaissance et distinct du plan de l'union. Je crois que ça c'est très important, parce que ça fait comprendre comment il y a un problème particulier de l'ordre du venir. Autrement dit, c'est ce qui justifie, si vous voulez, une philosophie de la nature distincte d'une philosophie première. Ça justifie, au plan de vue, alors, dans la perspective même de la connaissance de l'acte de la puissance, ça justifie qu'il y a une certaine autonomie de la philosophie de la nature par rapport à la philosophie première. Une autonomie que, de fait, plus tard dans la scolastique, on ne maintiendra plus. C'est ça qu'il faut bien voir. Parce que là, il y a une autonomie qu'Aristote maintient et veut donner au monde propre du devenir. Le monde du devenir, le monde de tout ce que représentent les réalités naturelles qui sont en devenir, possède donc un ordre particulier qui ne peut pas se ramener à ce que représente l'ordre de la philosophie première. Oui. Alors, c'est ça qu'il va affirmer. Alors, nous allons, je ne vois pas le livre Delta, mais il m'est fait trop longtemps. Si nous avions eu le temps, j'aurais repris le livre Delta au chapitre 11, étant donné l'importance de la question. Alors, je vais voir rapidement ce chapitre, qui, encore une fois, est un chapitre extrêmement important. Alors, je vous invite, je ne dis pas la fin de semaine, parce qu'on a pris beaucoup de temps, et puis que, de fait, on n'a peut-être pas l'intelligence assez limpide dans les chapitres, mais je vous invite, si vous voulez vraiment entrer dans la métaphysique de l'âme et de la puissance, de revenir au chapitre 8. Parce que ce chapitre 8 est très important. Et ce chapitre 8, en plus de ça, justifie profondément au plan proprement métaphysique tout le problème de la causalité au niveau de l'être. Ça, c'est aussi très important. Aristote ne le dit pas, mais au fond, c'est de fait le fondement. Puisque il va nous montrer cette dépendance de l'être en puissance avec Alors, au point de départ de ce chapitre 10, il rappelle, par puissance, j'entends non seulement cette puissance déterminée, principe de changement dans un autre être en tant qu'autre, mais en général tout principe de mouvement ou de repos, car la sous-vie est dans le même genre, guillemets, que la douleur. Car la sous-vie est principe de mouvement dans le même en tant que même. Autrement dit, Aristote revient sur un problème qu'il avait vu au début du livre Theta, la distinction de la dunamis et de la sous-vie. Alors, ce qui était très curieux, c'est qu'au point de départ du livre Theta, Aristote distinguait la sous-vie il distinguait la dunamis de la sous-vie pour ne traiter que de la dunamis. Ce qui est très curieux ici, c'est que nous avons un procédé inverse d'intégration. Il va nous faire comprendre que, de fait, la sous-vie est dans le même genre que la douleur. Alors je crois que c'est très important ce point de départ. Il n'avertit pas. Mais au fond, c'est très important parce que ça nous fait comprendre deux perspectives tout à fait différentes. La perspective du début du livre Theta et la perspective de ce chapitre 8. Mais évidemment, on peut dire qu'il y a contradiction, Aristote dit deux choses tout à fait différentes. C'est toujours la même chose. Votre départ, si vous ne respectez pas les perspectives d'Aristote, matériellement, vous diriez qu'il y a une contradiction. Mais matériellement, vous direz qu'Aristote a changé de vie. Au début du livre Theta, Aristote montre qu'il s'agit de la dunamis et pas de la sous-vie, et nous avons essayé de comprendre pourquoi. Nous avons dit pourquoi il partait de la dunamis et non pas de la sous-vie. Et que seule la dunamis est capable de nous conduire vers le point de vue de l'induction de l'acte. Une fois qu'il avait cette induction de l'acte, il nous a prévenu. Il nous a dit que grâce à la découverte de l'acte, on avait une vision plus profonde de la puissance. Donc, grâce à la vision, à la découverte de l'acte, il y a une nouvelle vision de la dynamique, qui n'est plus la même que précédemment, et qui permet alors d'intégrer la puissance. Vous voyez, je crois que c'est ça qui est souligné. C'est important, encore une fois, parce que ça nous montre bien que Aristote, chaque fois, essayer de saisir les points de vue dans des points de vue plus profonds. Donc, vous avez dunamis et sous-vie qui sont deux principes différents. La dunamis, principe du changement dans un autre en tant qu'autre. La sous-vie, principe du changement dans le même en tant que le même. Il nous dit ici que la sous-vie fait partie de la dunamis. Donc, on peut opposer les deux et distinguer les deux, et puis chacun fait ça. Le cas contraire, en dynamisme, alors d'une façon beaucoup plus générale, comme principe du mouvement. Et alors à ce moment-là, la sous-vie est intégrée dedans. Or, on peut donner cette vision-là lorsqu'on a justement une vision de l'acte antérieur, qui permet alors d'avoir comme une vision d'adynamisme, qui n'est plus seulement l'opposition entre le point de vue A, nature, parce que là il y a vraiment l'opposition entre art et nature, le point de départ du livre Theta, tandis qu'ici, art au sens de qualité, par la dynamique en tant que qualité, en tant qu'une puissance, d'une qualité, et la nature au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ici, ayant découvert l'art, il faut avoir une nouvelle vision de la dynamique, prise d'une certaine manière au niveau de l'être. Alors, au niveau de l'être, elle dépasse cette distinction. Et alors, elle devient un genre qui a su la cause. Mais je crois que c'est ça qu'il veut nous souligner qu'il dit. Il a averti, mais bon, il ne revient pas là-dessus. À toute dynamis de cette sorte, l'acte est antérieur. Donc, après avoir averti, il prend la dynamis dans une perspective nouvelle, c'est-à-dire dans une perspective d'une compréhension plus profonde, puisque cette dynamis intègre la sous-vie, et c'est plus seulement l'opposition entre les deux, il va lui montrer à toute dynamis de cette sorte l'acte est antérieur par le logos, mais selon le temps, l'acte est antérieur dans un sens, l'acte ne l'est pas dans un autre sens. Donc nous allons avoir successivement ces points de vue. Nous avons donc l'antériorité de l'acte sur la puissance, par le point de vue du logos. Maintenant, on va essayer de traduire tout à l'heure. Le point de vue du logos, c'est-à-dire le point de vue de l'intelligibilité, le point de vue de la connaissance. Premièrement. Deuxièmement, par le point de vue de l'ouvia, Si je regarde le livre d'Anita, je vois l'antériorité que l'on nous dit à ses antérieurs échos, tout ce mois-ci. Et dit l'un ou l'autre, c'est qui il dit. Avec un livre d'Anita, il était l'un à côté. Et on comprend très bien pourquoi il va le dire. Nous verrons au moment où justement il regardera l'antériorité du côté de l'Anita. C'est intéressant à noter. D'un côté, il met les deux, et ici au contraire, il va prendre uniquement cette antériorité. Troisième antériorité, dans le point de vue du temps. Alors, quand il s'agit du temps, il fait une division nouvelle, c'est qu'on ne peut pas dire d'une façon absolue que l'art est antérieur à la puissance du point de vue du temps. Et donc, il respecte une certaine antériorité de la puissance dans l'ordre du temps par rapport à une certaine antériorité, pas une antériorité absolue. Mais selon le temps, l'art est antérieur dans un sens, l'art n'est pas dans un autre. Alors, cette distinction est propre à la distinction de la tête. Elle n'existait pas quand il s'agissait du point de vue de Bouddha. Parce qu'au fond, un accident ne peut pas exister antérieurement à la substance, au point de vue proprement métaphysique, et donc on ne peut pas dire que l'accident a une antériorité selon le temps. Tandis qu'on peut dire que la puissance peut avoir une antériorité selon le temps à l'égard de l'art, selon certaines perspectives. Et c'est pour ça que lorsqu'il s'agit du temps, il va y avoir la possibilité de considérer une antériorité de la puissance à l'égard du temps. Et cette possibilité de considérer la puissance à l'égard du temps va donc donner au devenir une structure particulière, une antériorité particulière, une autonomie particulière. Je crois que c'est là où il y a un point de vue extrêmement important à souligner. Alors, nous allons regarder successivement, rapidement. Premièrement, l'acte est antérieur, l'énergéia, l'acte est antérieur à la puissance selon le logos. Car, c'est parce qu'il veut agir que le possible est possible. C'est la raison simple, elle nous est donnée directement. Pour définir le possible, nous l'avons dit, le possible ne se définit qu'en fonction de l'acte. Le possible métaphysique, voyons bien, c'est pas le possible logique. Hein. Le possible logique se saisit directement. Et il s'agit toujours du possible métaphysique. Le possible métaphysique ne peut être précisé qu'en fonction de l'acte. Si le possible métaphysique ne peut se définir qu'en fonction de l'art, nécessairement, selon le logos, c'est-à-dire selon l'intelligibilité, le point de vue du possible ne peut être connu que par l'art. Le logos et la connaissance de l'art préexistent à la connaissance de la puissance. Donc il faut connaître ce que c'est que l'art pour connaître ce que c'est que l'art. Donc au point de vue du logos, hein, au point de vue de l'intelligibilité. Au point de vue de l'intelligibilité, il y a une priorité de l'acte sur le point de vue de la puissance. Ça, je crois que c'est assez facile à comprendre au plan métaphysique, hein, comprenons bien. Parce que si vous prenez la connaissance au point de vue du devenir, vous avez autre chose. Et je parle au point de vue de la connaissance. Parce qu'au point de vue du devenir, il y aura la même chose. Il va y avoir une antériorité de la puissance à l'égard de l'acte, et donc une antériorité d'une certaine intelligibilité. Mais le possible métaphysique, donc le possible au sens fort, le possible métaphysique ne peut être compris que par l'acte. Car, et c'est bien ce qu'il dit, c'est parce qu'il peut agir que le possible est possible. C'est parce que le possible peut être un acte, c'est donc en fonction de l'acte que nous connaissons le possible. Donc sa première priorité très importante, vous comprenez bien. Selon le logos, pour Aristote, c'est très très important, puisque ça nous montre que toute la métaphysique du possible ne peut se comprendre qu'à partir de l'art. Deuxièmement, selon le temps. Vous voyez qu'il ne prend pas le temps lorsqu'il avait annoncé, parce qu'il va laisser l'usia en dernier. Et ça donnait l'importance de cette priorité selon l'usia. Selon le temps, l'agent identique selon l'espèce est antérieur, mais non selon le temps. Alors il va tout de suite ici donner un point de vue très, très particulier pour bien nous montrer l'agent identique selon l'espèce est antérieur, mais non selon le nom. Il va donner l'exemple. Je dis cela parce qu'à cet homme qui existe déjà en acte, au blé, il y a celui qui voit, trois exemples d'acte, trois exemples de modèle d'acte, sont antérieurs selon le temps, la matière, la semence, et la faculté de voir, choses qui sont en puissance, homme, blé, et celui qui voit, mais non encore en acte. Cependant, à ces actes en puissance, sont antérieurs selon le temps, d'autres actes en actes, d'autres êtres en actes, à partir desquels ceux-là furent produits. Car toujours d'un être existant en puissance, l'être en acte est produit par un autre être en acte. Par exemple, l'homme par l'homme, le musicien par le musicien. C'est toujours par quelque moteur premier. Or, ce qui meut est déjà en acte. Nous avons dit dans l'étude de la substance que tout ce qui devient, devient de quelque chose et par quelque chose, et que ce quelque chose-ci est identique selon l'espèce. C'est pourquoi il semble impossible d'être bâtisseur sans avoir rien bâti, et d'être joueur de sitar sans avoir rien, sans avoir joué de la sitar. En effet, celui qui apprend à jouer de la sitar, en jouant de la sitar, apprend à jouer de la sitar. Il est en même, il en est de même pour tous les autres cas. Cela a donc donné naissance à l'objection statistique que celui qui ne possède pas la science ferait ce qui est l'objet de la science, car celui qui apprend une science ne la possède pas. Mais puisque ce qui devient quelque chose est devenu, et de ce qui est, et de ce qui en général est mu, quelque chose est déjà mu. Ceci est expliqué par le traité du mouvement. Il est donc nécessaire que celui qui apprend possède également quelque chose de la science. Donc, dans ce cas aussi, il est clair, c'est très clair, c'est tout compris, que l'acte est antérieur à la puissance, alors la génération est le temps. Oui, je vous ai extrait ce passage parce que ça vous montre que ce passage, il est extrêmement intime pour Aristote, mais il demanderait quelques petites explications, pas, si on voulait vraiment comprendre ce que c'est. Autrement dit, Aristote va essayer de comprendre quand il s'agit de l'ordre génétique. L'ordre génétique, c'est celui qui est mesuré par le temps. C'est propre justement de l'ordre du le point de vue du temps, c'est le mouvement d'être mesuré par le temps. Tout ce qui est en mouvement est mesuré par le temps. Il ne faut pas oublier ça, parce que je crois que c'est très important à bien souligner les deux aspects. L'antériorité selon le temps, et il conclut, vous voyez, au point de départ, il a dit quant à l'antérieur selon le temps, voici. Et puis il conclut, donc dans ce cas aussi, il est clair que l'acte est antérieur à la puissance selon la génération et le temps. Donc, dans la conclusion, il met les deux. Le point de vue de la génération, le point de vue du temps. Et dans le point de vue du départ, dans le point de départ, il est uniquement selon le point de vue du temps. On comprend très bien pourquoi. Parce que si vous prenez uniquement le point de vue du temps, vous direz, selon le temps, la puissance est antérieure à l'acte. Puisque dans une chose qui devient, il faut nécessairement qu'il y ait avant la possibilité de devenir. Autrement, elle ne deviendrait pas. Donc, dans tout devenir, dans tout être qui devient, il y a nécessairement avant le résultat, il y a justement l'état en puissance. Donc si je prends uniquement selon le temps, je dirais une priorité de la puissance à l'égard de l'acte. Mais si je regarde non pas seulement le temps, mais la réalité qui est engendrée, Genesis, alors à ce moment-là, ça change. Parce que ce qui est engendré, ce qui est mu, selon le temps, il est dans le temps, ce qui est mu. Bon, pour lui, il y a l'antériorité de ce qui est en puissance. Mais si je regarde sa réalité existante, il faut nécessairement que cette réalité qui est mue, du fait même qu'elle est mue, elle dépend d'un autre, et d'un autre qui est en acte. Donc, voyez bien la conclusion porte sur le point de vue du temps et la réalité. Donc, l'existence de la génération. Tandis qu'au contraire, le point de départ, pour bien montrer les deux aspects, portait uniquement sur le temps. Je reprends pour que vous voyez bien, parce que c'est important, c'est tout le raisonnement qu'il donne ici. Si vous dites simplement, je prends le point de vue du temps, qu'il avait annoncé, l'antériorité, est-ce que selon le temps, pouvons-nous dire que l'acte est antérieur à la puissance? Je peux regarder le temps en lui-même, ou je peux regarder le temps en tant qu'il mesure la réalité qui est mue. Regardez le traité d'Aristote dans la physique. Enfin, la notion du temps chez Aristote. La notion du temps chez Aristote implique toujours ces deux aspects. Puisque le temps est une mesure à l'égard de la réalité qui est mue. Donc vous pouvez prendre le temps en tant qu'il est un nombre, en tant qu'il implique une succession. Donc vous pouvez regarder le temps pris en lui-même ou le temps en tant qu'il est appliqué à la réalité qui est mue. Si je regarde le temps en lui-même, je dirais alors à ce moment-là, quand il s'agit d'une réalité qui est mue, cette réalité qui est mue, avant d'obtenir son résultat, elle était capable de l'obtenir. Donc elle était en puissance avant d'obtenir. Ou bien, autrement, il n'y aurait pas de devenir. Tout devenir implique un état potentiel avant d'obtenir le terme de ce devenir. Avant le terme de devenir, il y a toujours un état potentiel. Donc, si je regarde uniquement le point de vue du temps, je dirais que la puissance est antérieure à l'acte. C'est vrai, selon le temps, la puissance est antérieure à l'acte. Mais si je regarde maintenant la réalité qui devient, alors cette réalité qui devient, elle dépend d'une autre réalité, qui elle-même est en acte. La semence est antérieure à la réalité parfaite. Mais la semence dépend d'une réalité qui est en acte. Et donc, si je regarde non plus seulement le temps, mais la réalité elle-même qui est mue, je suis obligé de dire à ce moment-là que l'acte est même antérieur à la puissance selon le temps et selon la guérison. Vous voyez, c'est pour ça que je crois que la question est pas. Alors, ceci, c'est important parce que ça nous permet de comprendre comment il y a une possibilité, en regardant uniquement le point de vue du temps, en regardant uniquement le point de vue du devenir, en faisant abstraction à l'aspect existentiel, si vous voulez, de la réalité qui est mue, génétique, de regarder la priorité de la puissance sur l'acte. Je n'insiste pas parce que je ne veux pas aller trop. Je vais passer le temps du cours et surtout de la question, précisément. Alors, nous aboutissons alors ensuite à quelque chose qu'Aristote considère comme très important, et je crois qu'en effet c'est très important dans la perspective d'Aristote, quelque chose de particulièrement important, c'est que l'acte est antérieur au cycle selon Lucien. Ici, troisième aspect qu'il avait annoncé comme ça. Alors, renvoyez donc au livre Delta pour voir ce que c'est que l'antériorité selon Lucien. L'antériorité selon Lucien, comme Aristote dit dans le livre Delta, c'est-à-dire une antériorité et qui est de l'ordre des réalités existantes. Voici ce qu'il nous dit. L'antériorité, selon la nature et l'usia, sont en ce sens antérieures les choses qui peuvent exister indépendamment d'autres choses. Tandis que les autres choses ne peuvent exister sans elles. Donc nous voyons bien que l'antériorité, selon l'usia, est une antériorité dans l'ordre de la réalité prise en elle-même dans son existence, dans son être. Maintenant, ce que font l'usia, regarde le point de vue de l'être. Et donc l'antériorité selon Lucia fait appel non plus à l'intelligibilité, non plus au temps, mais à l'ordre de l'être. Puisque Lucia, pour Aristote, nous l'avons dit, c'est ce qui vient d'être premier dans l'ordre de l'être. Et donc nécessairement l'antériorité selon Lucia représente une antériorité absolue dans l'ordre de l'être. Alors voici ce qu'il va nous dire. Premièrement, il va nous montrer comment l'acte est antérieur à la puissance selon l'univers. Premièrement, parce que les choses, alors il donne le premier mot, il ne donne plus les autres, c'est ce qui arrive de temps en temps, c'est l'arrive. Il annonce, c'est très bien, il annonce un premier mot, puis vous attendez toujours le second mot, ça n'arrive pas. Ah, ça, c'est normal, il présuppose très intelligent la classification d'une chose selon, c'est fixe le mouvement de la pensée. Parce que les choses qui sont postérieures par la kémie, sont antérieures par la forme et par l'outil. Ça, c'est très curieux, comme manière d'aborder le problème. C'est l'ordre inverse, au fond. Il va se servir, oui, c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'il a modifié l'ordre. Il a modifié l'ordre. Il avait annoncé logos ou via temps, d'une certaine manière normale, on passe du logos à l'usia, pas du tout. Il prend logos, temps, et puis l'usia. Pourquoi? Parce que le premier argument qu'il nous donne de l'usia prend est pris de l'ordre inverse quand il s'agit du oui, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas pu le faire, il n'avait pas pu donner des arguments. Et c'est normal, parce que toujours Aristote nous dit que nous connaissons mieux les choses qui sont engendrées que les choses éternelles. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a d'abord la philosophie de la nature avant le point de vue de la philosophie première. Parce que la philosophie de la nature, pour nous, quoi, dans le point de vue du temps, est quelque chose de plus intelligible. Et c'est pour ça que le premier argument qu'il nous donne est celui-ci, parce que les choses qui sont postérieures par la génétique, donc parce que les choses qui viennent après, selon la génération, sont antérieures par la forme et par l'outil. Exemple. L'homme est antérieur à l'enfant et à la semence. car l'un a déjà la forme, l'autre pas. Tout ce qui devient, devient en vue du fin. La cause finale est principe. Alors remarquez ici, hein, parce que c'est le seul lieu où ça vient, et c'est quand même intéressant de le voir. C'est quand il s'agit de montrer l'antériorité de l'acte sur la puissance au point de vue de l'ouvia, qu'Aristote fait allusion à la cause finale qui est principe, et que tout le devenir se comprend en vue de la fin. C'est quand même très intéressant de voir cela. Parce que de fait, c'est ici où nous voyons que le fondement même du principe de causalité finale est pour Aristote vraiment cette antériorité de l'acte sur la puissance selon nous. Et c'est pour ça qu'il considère que c'est important, que c'est là quelque chose d'absolument capital. Alors je reprends pour que vous voyez bien, parce que ceci, ça me semble très important au point de vue de l'intelligence de la métaphysique d'Aristote. Si on veut comprendre le point de vue de la métaphysique d'Aristote, c'est qu'Aristote dit lui-même que l'originalité la plus grande de sa philosophie première, c'est la découverte de l'acte. C'est la découverte de la finalité. Et ici, il met bien le lien, vous l'avez déjà lu, entre le point de vue de l'acte et de la finalité. Donc, si nous voulons comprendre l'originalité propre de la philosophie première d'Aristote, c'est bien dans ce problème de l'antériorité de l'acte sur la puissance au niveau de l'ousia. Selon l'ousia, c'est là où de fait nous saisissons ce qu'il y a de propre à la métaphysique d'Aristote, à la philosophie première d'Aristote. Si nous voulons entrer dans son intention, vous voyez, si nous avons d'abord, si vous voulez, le souci d'écouter ce qu'il dit, il faut d'abord, en fait, il faut expliquer le texte en essayant de comprendre ce qu'il dit. Alors voici ce qu'il dit. L'homme est antérieur à l'enfant et à la semence. Donc il avait dit avant, la semence est antérieure à l'enfant, donc nous reprenons l'ordre inverse. Et parce que justement, il a dit précédemment, que l'antériorité de la puissance à l'égard de l'âme, l'antériorité de la puissance à l'égard de l'acte, selon le temps, n'est que partielle. Elle n'est pas absolue. Donc, nous pouvons très bien reprendre ce point de vue-là. L'homme est antérieur à l'enfant et à la semence. Car l'un a déjà la forme, l'homme, il est dans un état de perfection, l'autre pas, l'enfant et la semence. Il précise, tout ce qui devient est en vue d'une fin. Donc, l'enfant, la semence, est en vue d'une fin. Et cette fin, c'est justement la forme, c'est-à-dire la forme plénière. La cause finale, le principe, et le devenir est en vue d'une fin. La cause finale, le principe, elle joue ce rôle d'être première, donc de donner la signification dernière de tout le devenir. Tout le devenir ne possède sa signification dernière que par le point de vue de la fin. Or, l'acte est une fin, et c'est en vue de celle-ci que la puissance est prise. Ici, dit de façon explicite, l'acte est fin. Et c'est dans l'envie de celle-ci que la puissance est prise. Ce n'est pas pour avoir la vue, je vous donne l'exemple, ce n'est pas pour avoir la vue que les animaux voient. Mais c'est pour voir qu'ils ont la vue. C'est important de souligner ça. Bon sens, là qui revient, l'expérience. Il s'agit de bien voir que de fait, si on a la faculté de voir, c'est l'envie de la vision. Et vous ne voyez pas qu'on va la faire voir. Donc, vous créez l'habitude réflexive. Vous voyez comme c'est important de souligner ça. Ce que Merleau-Ponty souligne, que l'habitude réflexive prise à l'absolu ne peut nous conduire qu'à la puissance et ne nous ce que c'est qu'on peut le dire. C'est pas la même chose qu'il faut. Dans les vérités des postules, Merleau-Ponty, c'est quand même très intéressant. Il a fait ici ce qu'il a dit. Vous voyez que dans une habitude réflexive, nous ne pourrons pas saisir ce que c'est que l'art. Parce que l'art est toujours caduque. Et dans une attitude réflexive, le mot du date échappe. Parce qu'on sait dire lorsqu'il est avant là. Et donc dans une attitude réflexive derrière, on ne peut pas se dire que c'est là. Parce que là, c'est quelque chose d'ultime. Donc ce n'est pas pour avoir la vue que les animaux voient, mais c'est pour voir qu'ils ont la vue. On ne contemple pas pour acquérir le pouvoir de contempler. C'est aussi très intéressant. C'est très important de voir le point de vue de la finalité là, le point de vue de l'acte. On ne contemple pas pour avoir le pouvoir de contempler. Alors il souligne, sauf lorsqu'il s'agit d'exercice. Donc la famille, là. Oui, on voit très bien. Celui qui contemple pour avoir une habilité, une facilité à contempler. Donc à ce moment-là, c'est un exercice. On voit très bien. Alors l'exercice n'a pas de délire. C'est pas pour faire de l'exercice, dans l'ordre de l'exercice. Et on voit très bien que là, il souligne quelque chose que Platon n'a pas saisi. Parce que justement, il est trop dans l'ordre de la femme des gars. Et en étant trop dans l'ordre de la femme des gars, je ne peux pas te dire cela. Je ne peux pas te dire que de fait, c'est là qui commande tout. Et si vous êtes dans l'ordre de l'exercice, ça permet cette chose très particulière, c'est que vous, votre contemplation est pendue d'avoir le pouvoir de contempler. Donc, à la place de regarder le point de vue de la finalité, vous revenez au pouvoir. Dans l'ordre de l'exercice, si on prenait l'exercice comme un absolu, si on prenait la faille des gars comme un absolu, parce que c'est de l'ordre de l'exercice, la faille des gars, c'est de l'ordre de l'exercice. Alors, dans l'ordre de l'exercice, si on prend l'exercice comme un absolu, le pouvoir devient, devient quelque chose de principal à l'exercice même, donc à l'art. Je crois que là, il y a quelque chose d'extrêmement significatif. Aristote reprend ces exemples très simples pour bien nous faire comprendre que l'art est fin et que c'est lui qui explique et qui donne l'explication dernière à tout ce que représente le point de vue de l'exercice, à tout ce que représente le point de vue donc du pouvoir. On ne contemple pas pour acquérir le pouvoir de contempler. De plus, donc alors vous voyez, donc on voit là la priorité de l'acte sur le point de vue de la puissance. Donc, au point de vue de l'ousia, c'est-à-dire au point de vue de la force comme telle, au point de vue de la détermination. Le pouvoir de contempler est ordonné à la contemplation. Et la contemplation est ce qui finalise ce pouvoir. Et donc c'est bien ce pouvoir, c'est bien cette contemplation qui est antérieure, selon l'ousia, au pouvoir de contempler. Vous voyez, l'ousia est précis, c'est pas extrêmement souple, hein, parce que la contemplation n'est pas ousia, au sens aristotélicien, bon, mais elle est ousia en ce sens que c'est elle qui donne la signification profonde au pouvoir de contempler. Parce qu'elle est acte dernier. Prenez, si vous voulez, pour bien comprendre cela, Aristote disait déjà dans le Dianima, parce que ces deux passages sont là en parallèle. Dans le Dianima, il revient sur cette distinction très importante sur le point de vue justement de ce que représente le point de vue de l'exercice et le point de vue de la finalité, les différentes manières de considérer la puissance. Vous voyez dans le Dianima, livre 2, chapitre 5, 417A5. Donc, Dernima, livre 2, chapitre 5, 417A5. Où il reprend cette distinction, qui est une distinction extrêmement importante pour lui. Il le reprend dans l'éthique également, pour bien faire comprendre que la finalité de la vertu, c'est l'action vertueuse, que la finalité de la sagesse, c'est la contemplation, et non pas la sagesse. La sagesse est un habitus, la sagesse est un pouvoir, et donc ce n'est pas ça qui finalise. C'est très intéressant parce que ça nous fait comprendre comment le point de vue de la qualité, comme telle, ne peut pas finaliser. Revenons au point de départ de la dynamique. L'habitude de sagesse est une qualité, c'est une nouvelle. C'est un pouvoir. Et ce n'est pas ce qui finalise, il n'y a pas de dernier. Ce n'est pas l'aspect ultime. L'aspect ultime, c'est la contemplation. Et la contemplation est A, dernier, A ultime. Et c'est cela qui donne le sens dernier à tout ce que représente le point de vue de la dynamique. De plus, il prend une autre perspective. Toujours les différentes modalités de l'art qui sont là présentes. De plus, la matière est en puissance quand elle tend vers la forme. Et lorsqu'elle existe en acte, alors elle est dans sa forme. Donc ici encore, les rapports entre la matière et la forme, priorité de la forme sur la matière. Priorité selon l'usia, c'est-à-dire selon le point de vue de ce que représente le point de vue de l'être, puisque c'est par le point de vue de la forme que la matière est. Il en est ainsi de tous les autres cas, même dans ceux où la fin est un mouvement. Là, c'est ce qui est très important à souligner. C'est tout à fait. Quand la fin est un mouvement, donc il prend même le point de vue du mouvement, ici, pour bien montrer que le mouvement est une des modalités de l'art. Et donc, même lorsque la fin est un mouvement, ce qui montre bien qu'on peut considérer le mouvement de deux manières. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu que le mouvement était considéré comme un acte imparfait. Ici, il reprend au contraire le mouvement comme un acte parfait, comme un point de vue de modalité de la fin. C'est pourquoi, quand les maîtres pensent avoir atteint leur but, quand ils montrent les élèves en exercice, vous voyez, c'est excellent pour les examens, parallèlement à la nature, dans la finalité. Donc quand on voit quelqu'un fait, c'est la finalité de l'enseignement. Vous voyez, comme on dit bien, c'est le point de vue là. Quand au contraire, quelqu'un ne sait pas, c'est évidemment le point de vue qui la finalité manque. Mais on veut dire que j'ai la capacité et je ne peux pas exercer. Alors c'est très joli d'expliquer ça de cette manière-là. C'est pourquoi, comme les maîtres pensent avoir atteint leur but, quand ils montrent leurs élèves en exercice. Hein? Vous voyez bien, l'exercice ici. Parallèlement donc à la nature. Donc, et alors c'est simplement ça comme point de vue dernier. Donc le mot acte, ça nous a donné, je crois. Le mot acte energeia est dit selon le point de vue de l'heure, ergon, et tend à s'identifier à energeia. Ça c'est un passage très intéressant à noter au point de vue du langage d'Aristote. C'est un passage très intéressant puisque Aristote lit le point de vue de l'energeia, le point de vue de l'ergon et le point de vue de l'energeia. Donc c'est très intéressant pour ceux qui s'intéressent à voir exactement la différence qui existe entre l'énergéia, l'entelekéia et l'ergon. Et alors voyez bien, c'est dans un lieu très important, puisque c'est dans un lieu où Aristote montre l'antériorité de l'acte sur le point de vue de la puissance. Bien que l'exercice soit la chose ultime de cette puissance, par exemple la vision, tandis que pour d'autres, c'est différent, il y a introduit, par exemple, le point de vue de l'art. Alors ici, il y a une distinction sur laquelle Aristote revient, une distinction qu'il avait donnée précédemment, nous n'avons pas le temps de nous y arrêter. Enfin, c'est de montrer que de fait, il y a deux aspects toujours différents quand vous êtes en phase d'acte immanent ou quand vous êtes en phase d'acte transient. Une distinction qu'on avait vue précédemment et qui est très importante pour Aristote, puisque seul, quand il s'agit des opérations immanentes, l'opération finalise. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'opérations transitives, il y a un but. Donc tout ceci est pour essayer de faire comprendre la priorité de l'acte selon la puissance au point de vue de ce que représente donc la priorité de l'acte sur la puissance au niveau de l'oubliant. Alors, je termine. Aristote souligne en dernier lieu 1050b5 et suivant. Mais l'acte est antérieur selon un sens encore plus capital. Ça vient en dernier lieu, et c'est le point de vue de l'oubliant. Alors c'est très curieux ici. Nous quittons la distinction qu'il avait donnée précédemment, logos, temps, l'oubliant, et nous avons une quatrième distinction. C'est sous l'oubliant. Ce n'est pas distinct de l'oubliant, mais c'est sous l'oubliant. Mais l'acte est encore antérieur selon un sens plus capital. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Les êtres éternels sont antérieurs selon l'ouïa aux êtres corps. Alors vous voyez que sous le point de vue de l'ouïa, il y a une distinction qu'il considère comme la distinction la plus capitale et qui fait appel ici à la manière dont les êtres éternels. Donc il y a deux manières de regarder sous le point de vue de l'ouïa. Il y a le point de vue de l'ouïa comme principe et le point de vue de l'ouïa en tant qu'il existe. La distinction que nous avions vue entre le livre Theta et le livre Theta, et le livre Eta, c'est-à-dire le point de vue de l'ousia pris comme principe, et le principe et le point de vue de l'ousia pris dans sa manière d'exister, le pose. Eh bien, nous retrouvons la même distinction ici. Donc c'est intéressant parce que ça prouve que cette distinction a la considérée comme très importante. Quand on parle de l'ousia, on peut parler de l'ousia de deux manières différentes. On peut parler de l'ousia en tant que l'ousia est arché, en tant que l'ousia est proprement pot de l'être. Ou on peut parler de l'ousia en tant qu'on la considère comme un pot, c'est-à-dire comme une manière d'exister. Et alors à ce moment-là, nous regardons le point de vue des êtres éternels, leur manière d'exister, et nous pouvons affirmer, toujours dans cette même perspective de l'antériorité de l'acte sur le point de vue de la puissance, que les êtres éternels sont antérieurs aux êtres corruptibles. Et Aristote donne quatre cas successifs de cette antériorité au niveau de l'autre. Alors, je m'arrête. Et puis, je vous souhaite de bons examens, n'est-ce pas, et puis de bonnes vacances surtout. Total et absolu, parce qu'il ne peut y avoir d'humanisme plus radical que celui qui considère l'homme comme cause de soi et, justement, comme pure efficience. Donc, regardez l'homme comme cause de lui-même par la pratique et comme pure efficience. Toute donnée objective, tout ce en quoi l'homme peut communier à un autre, doit être écarté, car cela ne fait pas partie de l'œuvre réalisée.
se fait quelque chose d'antérieur. La pratique prend tout. Et la pratique doit saisir toute chose. Karl Marx déclare lui-même, le communisme représente dans le domaine de la pratique le matérialisme coïncidant avec l'humanisme. C'est dans la perspective marxiste que pour la première fois cet humanisme donne à l'homme la pleine conscience de sa valeur propre de créateur pur de ce monde et de lui-même. Car c'est uniquement dans l'action pratique et dans la lutte que se réalise cette conscience. Dès que la lutte s'arrête, dès que la pratique s'arrête, dès que la réflexion devient possible, c'est impossible. On est essentiellement dans un dynamisme qui se continue toujours. Je vous, pour terminer, je souligne ce que Petit dit ici. La conception marxienne ne sera pas moins collectiviste, en ce sens que Karl Marx s'efforcera avec le matérialisme historique de dépouiller la notion de l'humanité des connexions panthéistes qui demeurent encore chez Feuerbach. C'est la première différence qu'il voit. Donc, plus aucun panthéisme, vous voyez ce que je veux dire, chez Feuerbach, il y en avait encore. Et la seconde différence, elle est très très nette, c'est qu'à la place du sentiment, vous avez la pratique. Et la pratique n'est pas d'affaire de sentiment. Mais elle est affaire d'un réalisme de réalisation.